Bonsoir. Bosco Ntaganda, qui s'est rendu hier à l'ambassade des États-Unis à Kigali au Rwanda, demande à être transféré devant la Cour pénale internationale. Information confirmée par la porte-parole du département d'État américain. Selon elle, Washington a pris contact avec la CPI et le gouvernement rwandais pour faciliter cette demande avant d'ajouter, je cite, « Nous soutenons pleinement la CPI et son enquête sur les atrocités commises en RDC ». Fin de citation. Quelle analyse faire de cette situation? Pour en parler, nous recevons le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur, et bonsoir aux auditeurs et auditrices.
Samuel Monga, analyste en questions internationales, il s'intéresse aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Monsieur Monga, bonsoir.
Bonsoir.
Jason Stearns, analyste des questions liées à la sécurité, il est directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Oussalama. Jason Stearns, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci de votre participation. Guy Maté et Kevin Couté sont à la réalisation. Samuel Kachak au desk et à la mise en onde. La mise en onde est assurée par Paul Badianyama. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Bosco Ntaganda demande à être transféré devant la Cour pénale internationale. C'est ce qu'indique la porte-parole du département d'État américain. Je peux confirmer que Bosco Ntaganda s'est présenté à l'ambassade des États-Unis à Kigali ce lundi matin. Il a demandé expressément à être transféré devant la CPI à La Haye, a déclaré Victoria Nuland, citée par l'AFP. Toujours selon elle, Washington a pris contact avec la CPI et avec le gouvernement rwandais pour faciliter cette demande. Avant d'ajouter, je cite, « Nous soutenons pleinement la CPI et son enquête sur les atrocités commises en RDC », fin de citation. Pour sa part, Kinshasa, qui affirme que Bosco Ntaganda a plutôt été accompagné par les officiels rwandais jusque devant le portail de l'ambassade des États-Unis à Kigali, exprime sa satisfaction face à la tournure que prend cette affaire. Selon le ministre Lambert Mende, le gouvernement congolais espère que les gouvernements américains et rwandais vont coopérer pour que l'intéressé soit transféré à la CPI, le ministre Lambert Mende.
Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose parce que c'est le début d'un processus qui marque la fin de l'impunité pour ce seigneur de guerre. Nous nous attendons à ce que le gouvernement américain, que le gouvernement rwandais, parce que l'ambassade se trouve au Rwanda, puisse coopérer à ce que Bosco Ntaganda soit rapidement transféré auprès de la Cour pénale internationale, à défaut d'être transféré auprès de ses juges congolais, parce qu'il y a aussi un mandat congolais, en plus du mandat international, sur ce seigneur de guerre. Nous n'avons aucun doute en ce qui concerne les États-Unis, étant donné les positions claires que l'administration Obama a prise au sujet de la rébellion du M23, allant jusqu'à offrir une récompense assez importante à qui faciliterait la capture de ces seigneurs de guerre. Pour le reste, nous attendons comment les choses vont se dérouler concrètement.
Voilà, cette information vient de nous parvenir par rapport à la reddition de Bosco Ntaganda. L'ambassade des États-Unis au Rwanda dit réfléchir au sort à réserver à Ntaganda. Je ne crois pas que nous ayons la moindre idée précise de la suite des événements, a dit un responsable de l'ambassade des États-Unis cité par l'agence de presse britannique Reuters. On cherche encore à savoir comment ça va se passer, ajoute-t-il. Voyons à présent qui est Bosco Ntaganda. Cet ancien général des FRDC est un des chefs rebelles du M23, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les grandes lignes de son portrait avec Gabriel Wamenya.
Bosco Ntaganda, alias Terminator, est né à Kiningi, dans un petit village perdu dans les chaînes des montagnes de Virunga au Rwanda. Adolescent, il s'installe en Ngungu dans les territoires de Masisi au Nord Kivu. Là, il fréquente ses études secondaires sans y obtenir un diplôme. En 1990, alors âgé de 17 ans, il rejoint le Front Patriotique Rwandais FPR, dirigé par l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame. Face à l'exacerbation de la crise au Rwanda, Bosco Ntaganda s'engage dans la lutte contre les rébellions. Ainsi, il va servir dans les armées nationales tant rwandaises que congolaises. 12 ans plus tard, Bosco Ntaganda rejoint l'Union des Patriotes Congolais IPC de Thomas Lubanga à Ituri. Il commande les opérations militaires. Dans un rapport de l'ONU en 2002, Bosco Ntaganda est accusé d'avoir tué 800 civils dans la région de Mungwalu en raison de leur appartenance ethnique, mais aussi d'avoir recruté les enfants dans des opérations militaires à Ituri. Le premier mandat d'arrêt international sera lancé contre Ntaganda le 19 avril 2004. En 2007, Bosco Ntaganda rejoint les CNDP sous la direction de Laurent Nkunda qui renverse 2 ans plus tard. Bien que recherché par la CPI, Ntaganda est promis général par les autorités congolaises qui le protègent pour la cause de la paix selon elle. En avril 2012, il déserte les FARDC et crée avec d'autres officiers de la rébellion du M23 qui éclatera en 2 ailes quelques mois plus tard. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, comment analysez-vous le développement, ce développement dans l'affaire Ntaganda?
Merci beaucoup, messieurs, pour la question. Donc, il y a plusieurs dimensions qu'il faut voir dans la reddition de Bosco Ntaganda. Dans un premier temps, il faut savoir que Bosco Ntaganda, en se réfugiant au Rwanda, on allait se retrouver dans le même cas de figure que celui de Laurent Nkunda en 2009, lorsque Laurent Nkunda a trouvé refuge au Rwanda. Et alors ensuite, il faut bien savoir que, au niveau de Laurent Nkunda, lui n'avait pas un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Alors ici, dans le cas présent, c'est que c'était une espèce de présence embarrassée pour les autorités rwandaises d'avoir Bosco Ntaganda sur leur territoire, en sachant très bien que Bosco Ntaganda est recherché par la justice internationale et que les États-Unis avaient quand même promis une forte récompense de 5 millions de dollars pour ceux qui aideraient à capturer Bosco Ntaganda. Et le Rwanda se pourrait se trouver en difficulté face à cette situation où il servirait quelqu'un qui est recherché par la CPI et avec aussi par le gouvernement américain, tout en sachant que le gouvernement américain est un des premiers alliés quand même de Kigali. Et donc la solution par rapport à la situation de Bosco Ntaganda sur le territoire rwandais passait manifestement par sa livraison au gouvernement américain. Par ailleurs aussi, il faut bien se rendre compte que en signant le fameux accord du 24 février dernier, et dans les engagements que doivent prendre les différents États, ils doivent mettre hors d'état de nuire donc les différentes personnes qui soutiennent ou qui sont à l'origine des rébellions dans les pays voisins. Donc, de manière très claire, le Rwanda, en ayant Bosco Ntaganda sur son territoire, ne pouvait qu'aller dans ce sens-là pour se dédouaner vis-à-vis des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'accord du 24 février, et d'autre part, vis aussi des pays tout autour. Et il faut aussi savoir qu'au-delà de l'accord du 24 février, il y a aussi d'autres dispositions, d'autres conventions qui ont été signées par le Rwanda, même s'ils n'ont jamais été appliquées, qui obligent le Rwanda à livrer les différentes personnes qui sont impliquées dans les rébellions dans les pays voisins.
Professeur.
Donc la livraison de Bosco est une solution, entre guillemets, pour que l'on se débarrasse de Bosco des difficultés que le Rwanda pourrait avoir en l'ayant sur son territoire.
Professeur, mais comment vous réagissez par rapport à cette information qui venait de tomber, que je venais d'annoncer tout à l'heure, où l'ambassade des États-Unis au Rwanda dit réfléchir au sort à réserver à Ntaganda? Je ne crois pas que nous ayons la moindre idée précise de la suite des événements. Ne faudrait-il pas déjà s'inquiéter de cette prise de position?
Oui, vous avez raison de poser la question, parce que vous savez que le Rwanda et les États-Unis n'ont jamais signé ni ratifié le traité qui institue donc la Cour pénale internationale. Et donc sa reddition vers les États-Unis ne peut pas se passer sans respect des textes et des lois. Et donc il faudra être très très attentif justement sur les conditions juridiques du transfert de Ntaganda. Et je pense que c'est lié aussi au choix. C'est ça qui motive le choix de l'ambassade pour rendre difficile, de mon point de vue, ce transfert vers la CPI. Parce que, autre chose aussi, si vous lisez les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, vous lirez qu'il y a une supposition, je dis bien, il y a une supposition que Bosco Ntaganda serait sujet rwandais, puisqu'il est né au Rwanda et qu'il a grandi au Rwanda, même s'il a été général de l'armée congolaise. Donc, il y a cette disposition-là qui pourrait faire croire que Ntaganda en étant rwandais, est-ce que le Rwanda va accepter que l'on puisse extrader un des citoyens, tout en sachant bien que le Rwanda n'a pas ratifié le traité de Rome. Je partage donc le point d'interrogation que vous avez souligné en disant de manière très claire, puisque ce n'est pas encore acquis, que Bosco Ntaganda sera demain à la CPI.
Professeur, il y a Patience Bouanza Junior qui nous écrit de Bujumbura au Burundi qui dit « Moi, je pense plutôt qu'il faut se poser la question pourquoi Ntaganda s'est présenté lui-même de plein gré, de son plein gré et demandé son transfèrement à la CPI. Quelles auraient été, professeur, les données qui auraient changé pour que Ntaganda finalement accepte de se présenter d'abord à l'ambassade des États-Unis et puis de demander un transfèrement à la CPI? Brièvement,
je pense de manière très claire qu'il ne faut pas se leurrer sur le communiqué de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il est impossible, de mon point de vue, que Bosco Ntaganda quitte la frontière rwandaise jusqu'à Kigali de lui-même, qu'il trouve le chemin de l'ambassade de lui-même sans qu'il ne soit repéré par les services de sécurité du Rwanda. Vous savez aussi bien que moi que les services de sécurité du Rwanda sont parmi quand même les plus efficaces de la région. Et donc, il va de soi, de mon point de vue, que Bosco Ntaganda a été livré plutôt que fait livrer à l'ambassade américaine.
Merci.
Et le choix aussi des États-Unis me conforte dans l'idée de penser de manière très claire que l'extradition de Bosco Ntaganda nécessite quand même une analyse beaucoup plus fournie au niveau juridique pour être sûr que ils vont respecter les différents textes, aussi bien les textes rwandais que les textes des États-Unis, pour être sûr que ce transfert va se faire. Dans le cas contraire, on pourrait se retrouver dans une situation comme celle que les États-Unis ont déjà créée à ce qu'on appelle le Guantanamo, où vous vous souvenez que l'on a étendu la compétence judiciaire des États-Unis sur un territoire qui n'est pas des États-Unis.
Merci.
Et qui a un statut particulier. Est-ce que les États-Unis vont faire la même chose avec le Rwanda en disant comme c'est un ressortissant rwandais ou pas rwandais et que les États-Unis ne vont pas nécessairement le livrer, ils vont le garder et espérer avoir une justice américaine qui pourrait le juger.
Merci,
donc,
professeur.
De mon point de vue, je partage donc l'inquiétude et le point d'interrogation. Ce n'est pas encore sûr que Bosco Ntaganda sera effectivement transféré demain à la Cour internationale.
Merci, professeur Bob Kabamba. Jason Stearns, vous êtes analyste des questions liées à la sécurité, également directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Ousalama. Comment vous analysez la tournure que prend l'affaire Ntaganda?
Bon, moi, je soulignerais trois choses, je pense. La première chose, je pense, c'est de dire que c'est un soulagement pour la population de l'Est du Congo. Ça fait presque une décennie maintenant que Bosco Ntaganda est voulu par la justice internationale comme aussi congolaise. Et donc, c'est une bonne chose, je pense. Il était une épine dans le dos du processus de paix. C'était quelqu'un qui ne voulait pas avoir la paix parce qu'il savait que la paix, pour lui, allait amener à son arrestation. Donc, c'est un soulagement et c'est bien qu'il s'est rendu à l'ambassade américaine. La deuxième chose que je dirais, c'est que ça montre aussi un changement par rapport à ses propres relations avec le Rwanda. Bosco Ntaganda était un homme clé pour le Rwanda dans son appui à trois rébellions distinctes. D'abord l'UPC en Ituri, ensuite le CNDP et ensuite l'M23. Donc le fait qu'il s'est rendu à l'ambassade américaine, c'est-à-dire que le Rwanda ne pouvait plus garantir sa sécurité, au moins lui ne pensait pas qu'il pouvait garantir sa sécurité. Il y a des officiers rwandais qui ont parlé dans la presse que s'il a été attrapé, on pouvait l'arrêter au pire au Rwanda. Je pense en parlant de ses proches. Aussi, ils pensent que s'il s'est rendu à l'ambassade américaine, c'est-à-dire que lui, il pensait qu'il n'y avait aucun endroit sûr pour lui, ni au Rwanda.
Jason,
comme le professeur Kabamba vient de souligner, il y a deux autres messieurs au Rwanda déjà commandants qui sont déjà réfugiés au Rwanda. Avoir un troisième là-bas, à part Nkunda et Mutebuti, ça va être un long barat pour le Rwanda. Deuxième chose que je soulignerais, c'est justement le changement, c'est-à-dire pour lui et ses relations avec le Rwanda. Et je pense que la troisième chose aussi,
Jason, si vous m'entendez, on a du mal à vous suivre. La qualité de votre ligne tend à se dégrader. Si c'est possible, essayez de modifier un peu votre position, vous déplacer un tout petit peu, espérant que ça va s'améliorer. Le temps que Jason, la réalisation puisse arranger ce petit problème. Samuel Monga, vous êtes analyste en questions internationales. Vous vous intéressez aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Finalement, Bosco Ntaganda, commençait-il à devenir très gênant pour le Rwanda?
Oui, j'ai suivi avec une attention particulière l'intervention du professeur Bob Kabamba, ainsi que le début d'intervention de Monsieur Stearns. Je m'inscris évidemment dans la même logique. Je voudrais, si vous le permettez, juste relever deux ou trois points qui me paraissent importants. C'est que à travers ce qu'on appelle aujourd'hui une reddition, on fait une lecture d'au moins trois ou quatre choses importantes. D'abord, le poids de la CPI, le levier de la CPI à distance. Vous savez que les relations entre les pays africains et la CPI ont souvent été contrastées, pour ne pas dire crispées. Mais on se rend bien compte que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de Monsieur Bosco Ntaganda a servi de levier de pression. Ça a pris du temps, mais ça a contribué à son isolement et à sa marginalisation dans une certaine mesure. Et puis les effets ou les retombées de l'accord cadre signé à Addis Abeba le 24 février. Le professeur Kabamba en a parlé tout à l'heure. Nous assistons aujourd'hui à des ondes de choc ou des spasmes de cet accord. Vous savez que les pays de la sous-région se sont engagés dans une logique de paix qui passe aussi par le refus d'abriter des personnages qui constituent une menace à la sécurité et à la stabilité des pays voisins. Et de ce fait, le Rwanda ne pouvait plus ou ne peut plus se permettre de jouer ou d'afficher une position qui pourrait diplomatiquement l'isoler. Bosco Ntaganda, c'est un homme de guerre, un seigneur de guerre, actif dans des forces négatives. Ces forces négatives ont besoin d'une base arrière. Or, cet accord d'Addis Abeba mine la possibilité de base arrière parce qu'il appelle l'ensemble des pays de la sous-région à œuvrer, à collaborer dans le sens de la promotion d'une plus grande stabilité et de la paix. Et puis, sur le plan de son propre mouvement, il a, me semble-t-il, commis une erreur. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il avait d'autres choix. Il a choisi en dernier ressort de tenir en main la corde politique du M23, oubliant que le M23 est fondamentalement un mouvement militaire et que le pouvoir était du côté du canon. Malheureusement, il a appris à ses dépens qu'il ne détenait pas le vrai cœur du pouvoir de son mouvement et que finalement il s'est retrouvé à la porte de sortie. Et je terminerai par dire que le gouvernement congolais, dans sa stratégie, en choisissant de s'ouvrir ou d'accepter le dialogue avec le M23, c'est de facto inscrit dans une logique défavorable à Bosco Ntaganda. Vous savez, ce type de seigneur de guerre s'inscrit plutôt dans une dynamique du chaos, dans une logique de brouillard. Et lorsque les choses ont tendance à s'apaiser, ils ne retrouvent plus leur substance. Donc, il devenait de facto un élément inapproprié au contexte en place.
Kabega Wa Kabega, qui nous écrit de Jérusalem en Israël, dit ça ne changera rien. Au contraire, le M23 vient de se tailler une crédibilité aux yeux de la communauté internationale, car il vient de se débarrasser du criminel. Le gouvernement ne doit pas siffler la victoire.
Mais je ne sais pas si la vraie conclusion doit se tirer au niveau de la crédibilité du M23. Mais moi, je pense tout simplement que le côté bicéphale de ce M23 disparaît. Aujourd'hui, le gouvernement congolais n'aura pas à négocier avec un monstre à deux têtes, mais bien avec un M23, résultat du rapport de force qui a eu lieu en interne. Sur le plan de la crédibilité, je pense que le M23 reste contestable. Il y a pas mal d'éléments qui nous montrent, et d'ailleurs les événements les plus récents prouvent par sa manière de régler ces conflits, ces dissensions, qu'il ne peut se targuer d'être crédible. Et vous savez, un groupe rebelle comme celui-là, dès qu'il est privé d'une base arrière, et c'est le cas pour le M23, n'a pas d'autre choix. Il faut s'inscrire dans une logique de négociation, et négocier à trois est beaucoup plus difficile que de le faire à deux.
Alors nous allons prendre pour vous, Samuel Monga, cette réaction qui nous vient de Vienne en Autriche.
Franck Mboni de Vienne en Autriche. La reddition du général déchu Bosco Ntaganda est décisive dans la mesure où le général Bosco Ntaganda n'était qu'un des arbres cachant des hectares de forêt derrière lui. Maintenant que lui-même se montre favorable afin d'être jugé par la CPI, nous attendons voir la bonne volonté de toutes les institutions internationales au niveau mondial et aussi au niveau africain. Le peuple congolais en particulier et les hommes de bonne volonté hostiles à toutes sortes de violences chercheraient à comprendre avec qui il a été dans ce coup, qui le lui finançait et c'était en vie de quoi. Devions-nous déjà dire que c'est le début du démantèlement d'un réseau flou avec autant de ramifications visibles et invisibles au niveau national et international? Nous voudrions bien le savoir.
Réaction Samuel Monga.
Non mais, je voudrais simplement dire que lorsqu'on parle de la CPI, on parle de droit international, bien sûr du statut de Rome, et que du point de vue purement juridique, c'est vrai qu'il n'existe aucune obligation qui repose sur les États-Unis de livrer Bosco Ntaganda à la CPI. Cela étant, il existe une disposition au statut de Rome qui fait allusion à la coopération des États. Et compte tenu du contexte politique de la sous-région, compte tenu aussi de la dynamique, notamment de l'accord d'Addis Abeba, et compte tenu aussi des prises de position de l'administration Obama, avec notamment le programme de Reward for Justice, qui récompense en fait les informations qui permettent d'arrêter des criminels de guerre qui sont poursuivis, et Bosco Ntaganda était sur cette liste. Nous avons des éléments qui nous permettent de penser que si les États-Unis livraient finalement Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale, ce ne serait pas une surprise.
Alors, Franck, que nous venons de suivre tout à l'heure, disait que Bosco Ntaganda est l'arbre qui cache la forêt, des hectares de forêt. Bosco Ntaganda, ces révélations n'éclabousseraient-elles pas certaines personnalités? Ne faudrait-il pas craindre cela?
Mais je ne sais pas. Je pense simplement que Bosco Ntaganda a été d'abord un homme très cruel. Terminator est un surnom qui lui va hélas malheureusement bien. Mais je pense aussi que c'est un homme de paille. Et que comme tous les hommes de paille, eh bien, ils finissent par être jetés à la poubelle de l'histoire et à disparaître assez cyniquement. Aujourd'hui, on parle de sa reddition. Peut-être que dans les jours qui viennent, on parlera de son arrestation ou du processus de son arrestation. Et je me dis que son arrestation ou sa mise à l'écart constitue une espèce de clairon sonné dans cette partie du pays et un avertissement à tous ces seigneurs de guerre et peut-être ces forces négatives de savoir que désormais, il y a peut-être plus de chances dans une logique de négociation ou de paix que dans la perpétration de faits aussi graves.
Jason Stearns, est-ce que vous êtes en ligne? Vous nous suivez? Jason, voilà, décidément, nous venons de perdre Jason Stearns. Nous allons... professeur Bob Kabamba, vous nous suivez, vous êtes en ligne?
Oui, je suis bien là, monsieur, je suis bien là.
Alors, professeur, vous venez de suivre l'analyse de Samuel Monga ainsi qu'une partie de l'analyse de Jason Stearns. Comme je le disais tout à l'heure, Ntaganda finalement était-il devenu presque inutile par rapport à l'accord cadre, par rapport au contexte actuel, comme l'ont dit Jason et Samuel Monga?
Merci pour la question. Donc, il faut bien se rendre compte de ce que l'on parle. Donc ici, manière très claire. Il y a, je pense, derrière tout ça aussi, une stratégie claire qui a été définie par à Kigali. Je m'explique. Dès que les M23 commençaient à se scinder en deux, cela voulait dire montrer déjà les signes de ce qui va arriver. C'est-à-dire que nous allons arriver à avoir deux têtes, dont une des deux têtes allait signer avec le gouvernement congolais à Kampala, en espérant, bon, pour la petite histoire, qu'ils ne vont pas signer le 23 mars, en référence bien sûr au mouvement 23 mars. Que nous sommes le 18 et que bon, les négociations c'est possible, on refuse pas d'avoir de nouveaux accords du 23 mars 2013 comme on a eu des accords du 23 mars 2009. Cela étant, ce qui permet de dédouaner le Rwanda dans sa stratégie de montrer qu'elle applique bien les résolutions qui sont les engagements et les recommandations qui sont dans l'accord. Mais il ne faut pas non plus se leurrer que ça donne quand même aussi la possibilité au Rwanda de se débarrasser d'un élément gênant, comme ça a été le cas avec Mutebusi, avec Laurent Kunda, et de récupérer quand même une bonne partie des gens qui étaient avec Bosco Ntaganda, et qui plus tard, je pense, pourrait reprendre encore un nouveau mouvement rebelle qui naîtra à partir du Rwanda et qui va réavoir les mêmes revendications et qui prendra un nouveau nom. Et qui aura sa tête une nouvelle personne, et qui ne sera pas poursuivie par la justice internationale, et qui va ramener à nouveau une sécurité à l'Est. Et on va refaire à nouveau toute une série de choses, comme ça a été le cas en 2004, en 2006, en 2008, en 2009, et maintenant ici en 2013, avec les négociations qui sont en train de se passer. Et par ailleurs aussi, il faut souligner que l'arrestation et la livraison de Bosco Ntaganda ne signifient pas non plus la fin de la violence à l'est de la RDC. Malheureusement, il y aura toujours, je pense, d'autres gens qui vont encore émerger pour continuer à s'aimer la violence à l'est et à continuer à faire souffrir les populations civiles.
Professeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu au Maniema.
Gilbert Kayumba Kateba, à Kindu, dans la province du Maniema. Le départ quasi volontaire du général Bosco Ntaganda, c'est un grand piège tendu par le Rwanda pour fragiliser la classe politique congolaise. Car M. Ntaganda, une fois arrivé à la CPI, il démasquera certains impliqués dans les crimes à l'est du pays. Et pour l'objectif du Rwanda, le Rwanda cherche à hypothéquer le dialogue interne et la cohésion nationale.
Professeur, je vous demande une brève réaction, s'il vous plaît.
Brève réaction, je ne pense pas que cette dimension soit liée plutôt à la dynamique politique interne au Congo, mais plutôt à permettre au Rwanda de garder toujours une longueur d'avance sur sa volonté de continuer à vouloir annexer, pouvoir à étendre sa zone d'influence dans l'est de la RDC. Et c'est une façon pour le Rwanda de se débarrasser des gens qui ne lui servent plus. Et il va refaire, je ne doute pas, dans les prochains mois, un nouveau mouvement rebelle qui va naître et qui sur les mêmes bases et les mêmes revendications que la M23, le CNDP et autres.
Merci, professeur Bob Kabamba. La réalisation me signale que nous avons quelques problèmes pour joindre Jason Stones, mais notez que des réactions nous viennent du Nord Kivu. À Goma, l'homme de la rue pense que Ntaganda n'était qu'un arbre qui cache la grande forêt qui doit être démantelée à tout prix. Quelques habitants de Goma s'expriment au micro de Jules Ngalawamona.
C'est une bonne chose d'abord qu'il se soit rendu, mais j'attends qu'on arrête aussi toutes les autres personnes qui sont derrière lui parce qu'il n'était pas le seul à agir. Donc qu'on essaie un peu de traquer toutes les autres personnes qui collaboraient avec lui et faire à ce que la paix puisse revenir à l'est de la RDC.
Il était devenu un homme dangereux dans toute la région. Il faut qu'on puisse changer de stratégie, voir comment traquer même ce qui était derrière lui. Et la justice pourra faire ce travail.
Si réellement il sera acheminé à coup pénal, on peut espérer que ces troupes pourront aussi se rendre ou bien pourront se rallier aux FRDC et la guerre, on dira qu'elle prendrait fait. Autrement, c'est Laurent Kunda a changé, Ntaganda changera une autre personne. Hein? C'est un cycle de guerre.
C'est que vous n'y croyez pas.
C'est difficile de croire directement.
Autre réaction, Human Rights Watch, cette organisation internationale de défense des droits de l'homme, se réjouit de cette reddition. Elle, qui s'est battue pendant de longues années contre l'impunité de Ntaganda, estime que c'est l'unique opportunité pour les victimes de le voir faire face à la justice pour des crimes dont il est accusé. Pendant ce temps, la plupart des ONG basées à Bunia en Ituri se disent satisfaites, quand bien même elles expriment des réserves par le fait que le Rwanda et les États-Unis ne sont pas partie prenante au statut de Rome qui crée la CPI. Ces ONG recommandent au gouvernement américain de faciliter dans un bref délai la remise du suspect Ntaganda à la Cour pénale internationale. Un transfert à la haie qui marquera, selon la MONUSCO, la fin de l'impunité dont a joui Ntaganda pendant tant d'années. C'est aussi ce que pense le gouvernement congolais. Samuel Monga, beaucoup de gens saluent cette reddition, mais il y a Highlander, Rutherford, Ernest Junior de Kinshasa qui dit « C'est vraiment honteux quand notre gouvernement et certains de mes compatriotes saluent cette reddition. Juste un coup de théâtre, même Makenga en fera autant. À mon avis, Bosco Ntaganda devrait être jugé ici par la justice congolaise pour servir d'exemple aux autres. »
C'est vrai, j'ai suivi un peu les réactions de nos compatriotes à l'Est et puis celle à laquelle vous faites allusion maintenant. Je me dis que c'est vrai qu'on a été habitué à un mouvement rebelle paré d'acronymes différents et malheureusement
même on sera plusieurs têtes.
Voilà, opérant de la même manière, sévissant dans des crimes les plus odieux. Mais je pense que Bosco Ntaganda a tellement cristallisé le mal de l'Est. Il a incarné la douleur de nos populations, ne fût-ce que sur un plan symbolique. Le fait qu'il soit mis hors d'état de nuire constitue une avancée majeure. Mais c'est aussi vrai que la solution de la problématique de l'Est ne réside pas dans la seule arrestation ou la seule disparition de Bosco Ntaganda. Le problème de l'Est est un problème beaucoup plus complexe. Il faut surtout éviter d'avoir une approche isolée. Il est important dans notre démarche de voir les choses de manière beaucoup plus intégrée. Mettre les forces négatives de côté, c'est un pas, mais c'est aussi important d'observer comment va s'appliquer concrètement sur terrain l'accord d'Addis Abeba et puis aussi toutes les démarches et les initiatives que peuvent être prises sur le plan national. Alors, c'est cette approche intégrée, portée à son maximum, qui peut, je le pense très sincèrement, nous donner une chance d'une meilleure issue quant à la situation de l'Est de notre pays.
Nous allons prendre pour vous, Samuel Monga, cette réaction qui nous vient de Matadi au Bas-Congo.
Martin Landou Di Lusala de Matadi, province du Bas-Congo. Considérant les crimes commis sur le sol congolais par Bosco Ntaganda, ce seigneur de guerre reste une leçon pour la RDC qui doit éviter de toujours contrer les accords sur l'intégration des forces négatives comme les M23. La rébellion, il faut les tout fait comme il en est au Mali et autrefois en Angola.
Alors, Samuel Monga, certainement, la reddition de Bosco Ntaganda doit être une leçon pour le gouvernement congolais. Le professeur Bob Kabamba l'a également dit, certainement que le gouvernement à Kampala va signer avec Sultani Makenga, mais ne faudrait-il pas craindre, par contre, que Makenga revienne ici comme un grand officier, qu'on lui étale le tapis rouge? Ne faudrait-il pas craindre cela?
Bon, c'est vrai qu'il y a énormément de réactions qui craignent un peu le côté cyclique des choses. Mais ne perdons pas de vue que le contexte progressivement a changé. Je rappelle quand même qu'avant Bosco Ntaganda, il y a eu un certain Laurent Kunda qui a été arrêté aussi au Rwanda. C'est vrai que lui ne faisait pas l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, mais on se souvient que jusqu'à aujourd'hui, on attend son extradition. Le contexte actuel est un peu plus différent. Je crois que dans la sous-région, il y a une autre dynamique qui paraît peu perceptible pour le moment, mais qui me paraît bien engagée. Pourquoi ? Parce que sur le plan de sa couverture, il y a notamment les Nations Unies qui constituent je dirais, la couverture suprême sur le plan multilatéral, qu'il suit de près et qui va d'ailleurs s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de cet accord. Et puis, cet accord permet aussi aux autres pays de la communauté internationale, je pense par exemple à la Belgique, à la France, à l'Angleterre, aux États-Unis, d'apporter leur contribution quant à sa vraie mise en œuvre. Et tout cela étant pris en compte, je me dis que pour les seigneurs de guerre, il n'y a plus un avenir aussi glorieux que ce qu'a vécu Bosco Ntaganda.
Alors, vous mettez l'accent sur le contexte actuel, la signature de l'accord cadre à Addis Abeba, mais Samuel Monga, d'autres analystes pensent que on semble miser sur la bonne foi, cette fois-ci du Rwanda, oubliant très vite le passé.
Bon, vous savez, en droit international, le premier mécanisme de suivi d'un accord, c'est un mécanisme intrinsèque. C'est d'abord la volonté des parties de pouvoir respecter ce à quoi elles se sont engagées. Bon, maintenant, le Rwanda a-t-il intérêt à se marginaliser? A-t-il intérêt de marcher en dehors de la dynamique? Je ne le pense pas. Les choses sont en train de changer. Vous savez, quand vous avez un accord de ce type avec les grandes organisations sous-régionales et même continentales africaines, avec un pays comme l'Afrique du Sud qui est un poids lourd de notre diplomatie continentale, et puis l'ONU qui chapeaute dessus, cela démontre une volonté, malgré tout, d'aboutir à une avancée.
Merci Samuel Monga. Je rappelle que vous êtes analyste en questions internationales. Vous vous intéressez également aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique. Voilà, j'y arrive, en Afrique centrale. Il y a Abdon Tachara qui nous écrit, qui dit « Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour demander l'extradition de Laurent Nkunda, surtout que cette fois-ci, le gouvernement rwandais fait preuve de bonne foi en coopérant avec la justice internationale. » Professeur.
Oui, là, je pense que ce serait l'élément fondamental qui prouverait que le Rwanda a changé de politique et bien décidé à pouvoir s'impliquer dans la résolution de conflits à l'est de la RDC. C'est à quoi je ne crois pas. Il n'y a pas que Laurent Nkunda, il y a aussi Moussa Boussi, et il y a aussi d'autres troupes qui sont au Rwanda depuis 2004, 2006, 2008, qui sont donc dans cette dynamique depuis ce moment-là. Et donc le vrai signal que le régime rwandais pourrait accorder, ce serait de pouvoir livrer effectivement Mutebusi, Laurent Nkunda, et aussi les 100 combattants du M23 qui sont actuellement cantonnés dans un centre de transit à la frontière avec le Rwanda, et aussi de remettre bien sûr les armes que tous ces 600 combattants avaient au gouvernement congolais pour que le gouvernement congolais puisse véritablement juger ces différentes personnes, puisque je me rappelle que le procureur général de la République avait entamé une procédure contre le M23. Ça serait véritablement un signal fort pour le Rwanda et qui prouverait effectivement que le Rwanda est dans une autre dynamique que celle que l'on souligne. Et c'est à quoi je ne crois pas, puisque on parle de la survie d'un régime et l'Est de la RDC, malheureusement, est capitale pour la survie du régime rwandais. Et toute la stratégie du régime rwandais, ça a toujours été de continuer à garder cette zone d'influence qui part donc de sud de Turi jusque nord Katanga, voire Fizi, qui doit rester donc une zone d'influence, une espèce de zone tampon de sécurité, non seulement sécurité, mais aussi de viabilité, en fait, pour le Rwanda. Et donc, le signal fort serait que le Rwanda livre Mutebusi, livre Laurent Nkunda, livre les 600 militaires qui sont actuellement dans le cantonné, plus les armes que ces différentes personnes avaient, qui soient livrées donc en RDC. Et il y a des textes, des traités juridiques, des traités internationaux qui ont été signés par le Rwanda et le Congo, qui permettent d'avoir des dispositions, qui permettent de pouvoir avoir cette extradition. Et même des commissions régulatoires de deux côtés. Et donc, les textes sont là. Donc, si le Rwanda veut entrer dans une dynamique de paix, il n'a fait qu'à appliquer ces différents textes,
c'est à quoi Merci. Je n'y crois pas du tout.
Voilà, je signale qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. La réalisation me signale que nous ne parvenons toujours pas à joindre Jason Stearns, analyste des questions liées à la sécurité et directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Ousalama. Samuel Monga, il y a l'assistant Samy Djakongwa qui nous écrit de l'Ituri qui dit « Nous saluons la reddition de ce chef rebelle. Il est temps que la justice congolaise s'occupe des autres criminels qui bénéficient encore de la liberté sur le sol congolais. Seule la reddition de Bosco Ntaganda ne peut pas mettre fin à l'impunité. Il faut que le gouvernement commence par juger et condamner les nombreux chefs rebelles qui traînent encore à Makala. Cela pour servir d'exemple à ceux qui sèment encore la désolation au sein de la population congolaise. » Comment vous analysez la proposition de cet auditeur au moment où vous avez parlé d'une approche intégrée?
C'est vrai qu'il a raison. Tout ne se limite pas à Bosco Ntaganda. Il faut qu'il y ait des signaux beaucoup plus importants sur le plan national, bien sûr, mais aussi, le professeur en a parlé, le professeur Kabamba en a parlé tout à l'heure, par rapport au Rwanda. Le Rwanda s'est manifestement, jusqu'à preuve du contraire, engagé dans un chemin de bonne foi. Eh bien, espérons que d'autres signaux tout autant importants vont être envoyés à la communauté internationale et en particulier à son voisin le plus proche, la République démocratique du Congo. Et l'arrestation ou la reddition de Bosco Ntaganda, c'est un pas important dans la lutte contre l'impunité. Vous savez, la justice et le droit constituent le socle d'un développement et de la solidité de la nation elle-même et de l'État. Et c'est assez important que dans ce sens, il y ait des progrès qui peuvent paraître minimes dans un premier temps, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous y engager. Et...
Alors, Samuel Monga, il nous reste moins de 4 minutes. L'accord cadre est encensé. Tous les analystes saluent cet accord, presque tous les analystes. Mais on a l'impression finalement que l'accord cadre, c'est une panacée.
Bon, vous savez, lorsqu'un accord de ce type est signé, il donne lieu à autant d'interprétations qu'il y a de lecteurs. C'est normal, ce n'est pas chose nouvelle, en fait. Mais c'est vrai aussi que ne perdons pas de vue. Reconnaissons à cet accord ce qu'il possède intrinsèquement. C'est que, pour la première fois, cet accord a mis autour de la table des signataires aussi importants. J'en ai parlé tout à l'heure. Et je me dis... qu'au vu de la structuration de cet accord dans le sens des signataires impliqués, on peut pas faire mieux, compte tenu de la situation de l'RDC. Alors, si, avec ce nombre de signataires, avec ce nombre d'implications, malgré tout, les choses n'avancent pas, ce serait bien dommage. Mais je pense, peut-être que je suis trop optimiste, mais je pense que nous avons des raisons aujourd'hui de nous montrer optimistes d'ailleurs.
Professeur Bob Kabamba, en guise de conclusion, déjà, ne faudrait-il pas tempérer un tout petit peu l'optimisme face à cette bonne foi que semble manifester le Rwanda?
Pour ma part, il n'y a pas de bonne foi de la part du Rwanda. Le Rwanda n'a jamais eu de bonne foi quand il s'agit de la survie de son État et de son régime. Et donc, le Rwanda se bat pour sa survie, et sa survie dépend de l'Est. Donc, tout est mis en place pour que tout continue à être comme avant. Et l'accord cadre, malheureusement, ne déroge pas à tous les autres accords qui ont déjà été signés par le Rwanda depuis plusieurs années et que les choses ne changent pas. Et ce n'est pas que les choses changeront. La seule, l'autre difficulté que je trouve assez navrant par rapport à l'accord du 24 février, qui est une espèce de mise sous tutelle de la RDC, avec Mme Robinson qu'on vient de nommer à la tête comme envoyée spéciale de Nations Unies. Et donc il y a de fortes chances que le dynamisme qui va être mis en place va être piloté de l'extérieur et plus par les Congolais comme on aurait pu le penser malheureusement. Et donc en conclusion, arrestation de Bosco Ntaganda, oui, une bonne chose, mais pas suffisant. Merci. Et largement insuffisant pour mettre fin à la violence à l'est de la RDC.
Merci, professeur Samuel Monga. Il faut conclure. L'accord cadre mis sous tutelle, l'arrestation de Ntaganda ne suffit pas. Conclusion.
Oui, je ne pense pas qu'il s'agit d'une mise sous tutelle. Je dirais plutôt un mécanisme consensuel de suivi de cet accord. L'arrestation de Bosco Ntaganda, c'est vrai que c'est une avancée, mais nous attendons d'autres signaux positifs du Rwanda, mais aussi de la communauté internationale, en particulier des États-Unis, par rapport à sa livraison à la CPI.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Suivez cette émission en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa. Au revoir.